été doyen émérite du, gymnase cantonal de Chamblande à Puy, professeur retraité de latin et des sciences de l'Antiquité. Pendant une dizaine d'années, il a coaché des travaux de maturité de gymnasiens, dont les sujets portaient sur le péplum. Il a aussi suivi des cours de cinéma pour enseignants et collaboré avec des professionnels de cinéma pour le tournage d'une dizaine de courts-métrages pédagogiques. En tant que metteur en scène, il a tourné depuis 2007 quatre films mythologiques amateurs, un moyen-métrage et trois longs-métrages présentant les mythes suivants: Écho et Narcisse, Amour et Psyché, L'enlèvement de Proserpine et La boîte de Pandore. Il rédige depuis une douzaine d'années un webzine richement illustré sur le péplum et s'est constitué une des plus riches collections de films sur l'Antiquité de Suisse romande. Donc, il s'agit de plusieurs milliers de films. Il est par conséquent en relation avec les meilleurs connaisseurs francophones de péplum et est souvent sollicité par différentes sociétés ou écoles pour des conférences d'une à six heures de durée sur le péplum, avec des sujets divers: présentation générale de la problématique, péplum de parodie, films sur Jason, Médée et les Argonautes, suggestions d'exploitation pédagogique des péplums, comparaison entre deux films sur la guerre de Troie, code traditionnel du péplum, anachronisme dans le péplum, dont un, c'est ça, différence entre les péplums de salles obscures et les télépéplums. Voilà. Alors maintenant, la conférence.
Une partie significative de mes vacances comme enfant était à Yverdon, où mes grands-parents possédaient un petit locatif au bord de la Thielle et où mon père avait passé les 20 premières années de sa vie. Donc Yverdon est une ville à laquelle je suis passablement attaché. Alors le péplum, ça s'appelait jusqu'en 1961 un film à costume antique. Mais c'est une notion relativement vague, relativement floue. Il n'y a pas des frontières précises. Prenez par exemple un film préhistorique. C'est un film à costume. Bon, les costumes, c'est des peaux de bêtes, mais c'est un film à costume, hein, antique, ou même au-delà de l'Antiquité. Prenez un film, les films par exemple sur Kinhiwangji. Vous avez tous entendu parler de lui, pas nécessairement par son nom, mais c'est ce fameux empereur chinois dont on a trouvé la tombe absolument gigantesque avec cette extraordinaire armée de guerriers de terre cuite. Il a fait l'unité de la Chine en 221 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 3 ans avant qu'Hannibal franchisse les Alpes avec ses éléphants, avec son éléphant. Les autres sont tous morts avant d'arriver du côté de la plaine du Pont. Eh bien, il est en plein dans le créneau du péplum au niveau chronologique. Est-ce que c'est un péplum? Bon, les Chinois appellent ça du Wuxia Pian. Ils font toujours encore maintenant beaucoup de films, sont très fiers de leur passé multimillénaire. On est à la limite du péplum. Mais prenons d'autres limites, je ne sais pas. Siegfried, les mythes de Siegfried, le dragon Fafnir, etc. Est-ce que c'est du péplum? On pourrait se dire que non. Mais enfin, vous le savez peut-être, après l'assassinat de Fafnir, sa veuve va épouser Attila, qui au 5e siècle va envahir l'Empire romain d'Occident, l'Italie, puis finalement Gaulle sera vaincu. Donc on est dans le créneau, en tout cas chronologique, du péplum. Sans parler de, alors là on est plus dans le péplum, du Moyen-Orient, Sémiramis, etc., de l'Égypte, là il y a des costumes égyptiens de la salle des pas perdus, des films sur l'Ancien Testament aussi, etc. On se disperserait en allant là-dessus. De la mesure où le nom du péplum vient du grec peplos, qui est un vêtement féminin, flottant, long, tombant jusqu'aux pieds, le vêtement habituel dans lequel on représente Athéna, qui a été latinisé par les Romains sous le nom de peplum, peplum en français, ça montre que le centre même du peplum, c'est la civilisation grecque et la civilisation romaine. Et donc, ce dont je vais vous parler, c'est des films sur la Grèce et sur Rome. Et en gros, en 4 parties. Première partie sur la mythologie gréco-romaine. Deuxième partie sur l'histoire grecque. Troisième partie sur l'histoire romaine. Et une quatrième partie sur le Nouveau Testament et les débuts du christianisme qui sont situés au plat de l'Empire romain. Voilà donc comment, et je vais devoir le faire au pas de course et butiner à toute vitesse. En gros, je pense, mais j'aurai de la peine à me freiner, mais que je vais vous asséner peut-être 40 minutes de parlotte. Il y en a déjà 4 ou 5 qui sont passés. Ouf! Et puis, je passerai 11 extraits de films. Les extraits, ça fera peut-être tout ça ensemble une trentaine de minutes. Donc, vous allez vous en tirer avec une peine d'une heure et quart, peut-être. Voilà. On me fait très régulièrement la remarque, mais les extraits que vous montrez sont trop courts. Bon, si je veux montrer la suite, il faut que je montre tout le film, quasiment. Donc, c'est clair que c'est des teasers, des accroches, hein. Juste pour vous mettre en appétit, mais les extraits de ce que je vais vous montrer sont tous des extraits de films que l'on trouve en DVD commerciaux. Donc s'il y en a vraiment un ou deux ou trois qui vous ont beaucoup parlé, vous pouvez vous les procurer et puis voir la totalité du film. Voilà, après cette introduction, intro de notre sujet. Et alors, je commence par là. Mythologie gréco-romaine, qui a été beaucoup traitée par un très grand nombre de films, au début très petits, à l'époque du cinéma muet, parce que ça avait l'avantage que le public de l'époque connaissait les mythes de la mythologie, et donc qu'on pouvait très bien se passer de paroles. Si vous voulez, on mimait souvent, gesticulant beaucoup, des mythes qui étaient connus. Ensuite, alors, on est arrivé au cinéma parlant, cinémascope, couleur, etc. Et la mythologie a été relativement souvent présentée. Les sujets les plus fréquemment présentés, c'est le cycle de Troie. Avec deux grandes parties, la guerre de Troie, donc si vous voulez, l'Iliade, mais vous le savez tous, l'Iliade est une toute petite tranche de cette guerre de 10 ans. L'Iliade, elle a duré 50 et quelques jours. Donc la guerre de Troie, et puis l'autre partie, c'est les retours. L'Odyssée, mais on a d'autres retours. Le retour de Ménélas avec son épouse récupérée qui vont échouer sur les côtes de l'Égypte, etc. Il y a différents retours, mais c'est vrai que le plus fréquemment représenté, c'est le retour d'Ulysse. Voilà. Alors, une première illustration, il s'agit d'un téléfilm que je trouve absolument délicieux. Il fait à peu près 3 heures, il s'appelle « Hélène de Troie » de John Kent Harrison, il date de 2003 après Jésus-Christ, et c'est un épisode qui précède la guerre. Il y aura déjà 1h30 sur les causes de la guerre, passionnant. Et là, c'est un épisode que certains d'entre vous connaissent, et s'ils ne les connaissent pas, ben, oh, vous allez tout de suite voir de quoi il s'agit. Agamemnon. Le son est assez fort. Bon, il n'y a pas encore eu de parole.
Prophète,
Voilà pour ce premier extrait. Ça, c'est donc le cycle troyen. L'autre cycle le plus souvent représenté, mais très souvent d'une manière relativement fantaisiste, c'est la vie d'Hercule. Alors on a inventé toutes sortes de choses sur Hercule, et les cinéastes peuvent peut-être se le permettre, parce que déjà dans l'Antiquité, chaque ville grecque inventait un passage d'Hercule et un exploit d'Hercule chez elle. Il n'y a pas que les 12 travaux que dont se renseigne précisément, on trouve, je ne sais pas, 80 ou 100 récits sur Hercule. La grande majorité des films sur Hercule, du reste, sont assez médiocres parce qu'on essaye uniquement de montrer un bon culturiste avec d'énormes biceps, et souvent on les choisit pour cette raison et pas parce qu'ils savent jouer au cinéma. Il y a d'autres cycles de la mythologie, notamment celui de Jason, les Argonautes et Médée, qui est une histoire absolument terrible et abominable. Il y a le cycle de Persée, le cycle d'Édipe, celui de Thésée, celui de l'Atlantide, et puis il y a eu récemment une ou deux titanomachies, mais enfin là on entre dans des choses un petit peu spéciales, et un certain nombre d'autres petits mythes qui ont été très peu représentés. Personnellement, ça c'est la parenthèse narcissique de la soirée, j'ai tourné en moyen ou long métrage les mythes d'Écho et Narcisse, d'Amour et Psyché, de l'enlèvement de Proserpine et de la boîte de Pandore. Passons maintenant à l'histoire de la Grèce. En fait, pour des raisons presque commerciales, financières, économiques, l'histoire grecque est beaucoup moins représentée que l'histoire italienne, romaine, parce que dans la grande époque du peplum, il y avait une puissante tradition du cinéma italien, franco-italien, avec des grands studios à Rome qui produisaient chaque semaine un ou deux nouveaux peplums. Et puis l'histoire romaine a plus d'épisodes vraiment marquant, et y compris parlant pour un public nord-américain qui connaît peut-être un tout petit peu Alexandre le Grand, mais alors César, Cléopâtre, Néron, etc., ça on connaît. Donc sur la Grèce, il n'y a pas énormément. Bon, bien sûr, quand on va dans le détail, on trouvera peut-être 100 ou 200 films, dont un certain nombre de films grecs qui n'ont jamais été mis dans une autre langue que le grec moderne et qui ont toujours été introuvables au DVD. Disons qu'il y a principalement deux grandes parties de l'histoire grecque qui ont été représentées dans quelques films marquants. D'une part, les guerres médiques, avec la fameuse bataille des Thermopyles, où 300 Spartiates, on parle jamais des 4 ou 5 000 Platéens qui étaient avec eux, vont essayer d'empêcher toute l'armée perse de passer. Alors, voilà un extrait. Alors, vous verrez qu'on est dans un registre tout différent. C'est un film aussi de notre siècle, du 21e siècle, mais alors que celui que je vous ai montré est un téléfilm destiné à un public plutôt âgé, attendant du réalisme, attendant de la psychologie. Là, on est vraiment dans la pure violence de salles obscures du samedi soir pour public adolescent. On est presque alors c'est... Mais je ne vous laisserai qu'une minute. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ouais, c'est pas mieux. bien sûr, au début du XXIe siècle, c'est une transposition des vilains djihadistes contre les bons occidentaux, représentants de la démocratie. Et ça plaît beaucoup à un public adolescent. Je dois avouer que je suis allé à une des toutes premières, ou peut-être la première projection à Lausanne. La salle était absolument comble. J'avais 3 fois plus d'âge que le plus âgé des autres spectateurs. Et c'est la seule fois où j'ai vu une salle éclater en applaudissements à la fin du film. 90 minutes comme ça. Bon, signalons quand même, vous vous êtes rendu compte que de ce manque de réalisme, c'est tourné en studio à Montréal, en blue screen, et puis ensuite vous avez des spécialistes qui injectent au niveau informatique des giclées de son, etc. Il y a même eu plus récemment une série télévisée de la chaîne American Stars sur Spartacus où il y a eu une spécialiste qui a passé plusieurs années à injecter, grâce à son ordinateur, des giclées de son contre l'écran. Voilà. Donc ça, c'est pas du son réel. Ça parle beaucoup aux jeunes. Ça parle moins à des vieux racornis de ma génération. Sur la guerre du Péloponnèse qui a eu lieu à la fin du même siècle, pas grand-chose, si ce n'est un épisode qui n'est pas véritablement un épisode de la guerre, mais qui est une pièce de théâtre qui en avait été tirée, la pièce de théâtre antique Lysistrata, qui est une grève des femmes. Il y a une guerre qui dure 28 ans entre les Spartiates et leur ligue, et puis les Athéniens et la ligue de Délos. Et il y a un moment, mais c'est une imagination théâtrale, où les femmes des deux camps font la grève du plumard et disent à leur mari, on acceptera de venir passer d'agréables moments avec vous si vous arrêtez de faire la guerre. Voilà. Donc c'est une fable qui est une fable pacifiste. Il y a eu quelques films à ce propos, bien sûr, parce que c'est assez drôle. Mais surtout l'autre grand épisode de l'histoire grecque qui a été filmé un certain nombre de fois, c'est les conquêtes d'Alexandre le Grand. Et il y a eu notamment, relativement récemment, en 2004, si je me rappelle bien, un Alexandre le Grand d'Oliver Stone, qui, à mon avis, est un des deux meilleurs péplums de notre siècle, pour ne pas dire de notre millénaire. Voilà un épisode, c'est juste au début de la bataille de Gaugamel, où il y a Alexandre et ses 40 000 Macédoniens d'un côté, et puis la Russe à la tête de ses 200 ou 300 000 Perses de l'autre. je suis désolé pour la mauvaise entente entre les haut-parleurs et mon ordinateur. Les DVD sont absolument parfaits au point de vue son. Et notamment là, ça aurait été intéressant d'entendre les arguments. C'est une grande tradition de l'historiographie antique que les généraux haranguent leurs troupes avant la bataille. Mais là, la fin de ce que je vous ai montré est considérée comme le trait le plus génial de toute la tactique militaire de l'Antiquité. Dans cette bataille où les Macédoniens sont, on ne connaît pas exactement les chiffres, mais à peu près à 1 contre 6, la ligne de bataille des Perses s'étendait sur beaucoup plus de largeur et la phalange macédonienne ne pouvait pas être étirée de par sa pratique même. Et alors Alexandre brusquement part en galopant avec, sur son fameux cheval bucéphale, en direction de l'aile droite. Il galope, il galope, il galope, et les Perses croient qu'il va essayer de tourner autour d'eux. Bon, il a juste quelques hommes avec eux, et le chef de l'aile gauche des Perses décale ses hommes. À l'époque, on n'avait pas des radios, des trucs comme ça pour donner les ordres, alors que le reste de l'armée ne se décale pas. Et brusquement, ça crée une brèche dans la ligne de bataille perse dans laquelle s'engouffre Alexandre. Alors ça, c'est pas du cinéma, c'est, je vous dis, ce que les historiens savent bien. Il trouve cette brèche et il se précipite vers Darius, qui était un peu en retrait de ses troupes. Darius panique et s'enfuit avec son char, si bien que brusquement la nouvelle chez les Perses se répand que leur roi s'est enfui et ce sera la panique et ça va donner la victoire. Bon, c'est quand même une bataille extrêmement difficile, mais ça donnera la victoire à l'armée gréco-macédonienne. Voilà, il y a quelques autres petits épisodes de l'histoire grecque qui sont représentés, mais pas énormément. Par contre, alors, je vous l'ai dit, dans l'histoire romaine, il y a beaucoup plus d'épisodes qui sont représentés, des épisodes hyper connus pour une bonne partie d'entre eux. Commençons par la Grèce la Rome mythologique. La Rome mythologique, c'est même avant la création de Rome, est né un des chefs troyens, réussit à s'enfuir de Troie avec quelques centaines ou quelques milliers d'hommes et de femmes. Il va faire tout un périple sur la Méditerranée, passant par Carthage, où il tombe amoureux de Didon, etc. Et puis, finalement, il arrive en Italie, et en Italie, il va avoir une série de guerres, et il va fonder l'Avignum, qui sera la ville ancêtre de Rome. Ça, c'est la Rome mythologique. Il y a eu deux ou trois films à ce propos, mais pas énormément. Par contre, ça a été représenté, illustré de la plus célèbre épopée romaine, latine, qui est l'Énéide. Ensuite, la Rome légendaire. Alors, la Rome légendaire, vous connaissez probablement tous certains épisodes. Romulus et Rémus. Je pense que parmi vous, vous avez pratiquement tous entendu ces noms et vous avez quelques idées. Et à leur propos, l'enlèvement des Sabines, très savoureux dans le film, avec ces Sabines qui gigotent pendant que les rustos de Romains les enlèvent, le combat des Horaces et des Curias, etc. Voilà un extrait. Alors, ce n'est pas des chefs-d'œuvre qu'il y a. Il y a quelques films sérieux, mais pas des chefs-d'œuvre. Et voici... qu'est-ce que c'est que c'est ? Un extrait, vous comprendrez bien de quoi il s'agit. L'acteur principal que vous verrez, Steve Reeves, a été un acteur qui avait été Mister Univers vers 1952, et ensuite qui n'a accepté que des rôles dignes. On lui a proposé d'être le premier James Bond, il a refusé, parce qu'il ne veut pas avoir permission de tuer et avoir tué, etc. C'était un culturiste extrêmement beau et bien équilibré, et qui finalement a joué d'une manière relativement décente. J'espère que... Mais là, il y a peut-être moins de sons et moins de paroles dans l'épisode que je vais vous montrer. Mon ordinateur n'étant pas tout jeune, pour un ordinateur, il est à peu près de la génération qui est la mienne comme humain. Romulus. selon la tradition du peplum des Golden Sixties, des années 1960, le bon est vêtu de clair, de blanc, et le méchant est vêtu de noir, comme la gentille, elle est blonde, et, excusez mesdames, la méchante, elle est souvent noire. Il y en avait une avant dans le film, etc. Il y avait des codes très bien définis qui permettaient à un public moins averti de savoir exactement ce qu'il en était et de comprendre les subtilités, même si là on ne peut pas dire que ce soit extrêmement subtil. Puis ensuite on arrive à la Rome archaïque. Là on est, selon une chronologie qui vaut ce qu'elle vaut, vers 753 avant Jésus-Christ, mais à la Rome archaïque on est autour de 500. Donc en 509, les Romains chassent les rois. Et il va y avoir un certain nombre de remous. Les rois essayent de revenir avec l'appui des Étrusques. Et il y a un certain nombre d'épisodes avec des grands héros de l'histoire romaine. Bon, des héros qui, comme Guillaume Tell, n'ont une existence que douteuse, contestable. Il y a, par exemple, Horatius Coclès, qui, à lui seul, comme Bayard, défend un pont à Grand Moulinet contre toute l'armée étrusque. Mucius Sévola, qui va laisser sans sourciller sa main brûlée, sa main droite brûlée sur un foyer pour montrer combien les Romains sont courageux. Sévola, ça veut dire gauche, Skywalla en latin. Clélie, qui traverse le Tibre à la nage, à la tête d'une dizaine d'autres vierges. Coriolan, qui conduira les armées romaines au succès, puis se retournera contre Rome et deviendra complètement impitoyable. Il faudra sa mère, sa femme et ses enfants pour réussir à sauver Rome. Voilà les principaux personnages de cette époque. Je n'ai pas le temps de vous montrer un extrait. Ensuite, on arrive aux guerres puniques. Il y a un certain nombre de films sur les guerres puniques, mais on se serait attendu à ce qu'il y en ait plus. Il n'y a pas grand-chose comme film vraiment marquant, à part un qui a été un film assez extraordinaire du cinéma muet, Cabiria. Et puis, bon, ça sur la première guerre punique, sur la deuxième guerre punique, il y a un médiocre Hannibal, bon, il y a des tas d'autres petits films. Et puis, il y a un petit bijou, mais presque inconnu, je crois, du reste qu'on ne le trouve pas en version française, on le trouve en version anglaise, en version italienne, c'est La Chérie de Jupiter, et où il y a, je crois, la plus belle scène subaquatique de toute l'histoire du cinéma. C'est absolument délicieux. Voilà, sur la troisième guerre punique, il y a aussi trois fois rien, encore moins que sur les deux premières. Puis, alors on arrive au premier siècle avant Jésus-Christ, et le premier siècle avant Jésus-Christ, c'est alors un siècle d'épisodes extrêmement marquants. Et le premier grand épisode marquant est mondialement connu, c'est Spartacus. Et sur Spartacus, il y a eu toute une série de films, de téléfilms, de séries télévisées, etc. Je vous passe là un extrait qui est tout à la fin de ce Spartacus, celui de Stanley Kubrick, qui date de 1960, qui était extrêmement dangereux à tourner parce que c'était l'époque du McCarthyisme aux États-Unis. On faisait la chasse aux communistes et prétendre que Spartacus veut une société égalitaire avec la cité du soleil. C'est après la dernière défaite de Spartacus. À la seule condition que vous nous aidiez à identifier le corps. C'est lui, Spartacus. Voilà. Pour cette très, très belle scène qui montre cet idéalisme, cette solidarité entre les révoltés. C'est un des films vraiment marquants des années 1960. Donc, quelques années après, alors il y a la guerre des Gaules, sur laquelle il y a une série de films tous aussi médiocres les uns que les autres. Et puis, alors toute une série de films sur César, César et Cléopâtre, Antoine et Cléopâtre, etc. Alors, voilà un exemple qui cette fois n'est pas tiré d'un film ni d'un téléfilm, mais d'une série télévisée que certains d'entre vous ont peut-être vu parce qu'elle a été hyper connue quand elle est sortie. Du reste, quand elle est sortie, c'était la série télévisée qui avait coûté le plus cher dans l'histoire de la télévision. La première saison a coûté plus de 100 millions de dollars pour une heure, pour la télévision, c'était beaucoup. Là, on est aux îles de Mars 44. César à droite. Brutus. Voilà, beaucoup d'entre vous attendaient le « Toi aussi, mon fils ». Cette série essaye de faire dans un certain réalisme pour ce qui est historique. Alors, on aimait bien rajouter des paroles au moment de la mort. C'est bien possible que César n'ait pas dit le « Caesutecnon tu quoque mi fili ». En effet, ça... semble relativement peu plausible, mais un autre exemple de cette série, Cléopâtre n'est pas représentée comme dans les autres films sur Cléopâtre, comme une beauté rayonnante, c'est une espèce de petite souris noire, rôde, vive, et dans les faits, les témoignages que l'on a réellement sur elle, et on a notamment beaucoup de témoignages de la littérature arabe qu'on a découvert ces 10 ou 20 dernières années, elle était remarquable par sa culture, par sa vivacité, elle parlait couramment 6 ou 8 langues, elle avait écrit différents traités scientifiques, et puis surtout c'était une femme prodigieusement sympathique qui avait un contact facile, alors que tous les pharaons précédents étaient distants, ne connaissaient même pas ceux de cette dynastie, la langue de leur peuple. Ils parlaient grec à Alexandrie, alors que le peuple égyptien parlait démotique, donc une des variantes de l'égyptien. Et puis, alors, bien sûr, par opposition avec cette image démythifiante, voilà, c'est 20 ans après, la mort de Cléopâtre dans un des films les plus connus de l'histoire du cinéma, celui de Mankiewicz avec Liz Taylor. Là, c'est un film qui, en son temps, avait fait beaucoup parler de lui, encore plus pour les scandales mondains qu'il y avait dans les coulisses que pour le film lui-même, qui avait battu déjà tous les records. Donc, Marc-Antoine est déjà mort, elle sait que tout est perdu, elle s'est enfermée avec deux de ses servantes. Ça, c'est Octave et les Romains.
De la part de la reine des Seigneurs, avec sa réponse est là. L'île est là. Tout ce qu'elle peut demander sera accordé dès son arrivée à Rome. Nous en parlerons pendant qu'elle marchera près de mon char. Qu'est-ce que c'est? Mon seul vœu que je t'implore d'exaucer, c'est qu'on m'enterre aux côtés de Marc-Antoine pour y demeurer jusqu'à la fin de toute chose.
Voilà un siècle sur lequel il y a beaucoup d'événements connus, bien sûr, et très souvent il faut répondre à l'attente du public. Lorsque Par exemple, on imagine l'Égypte de Cléopâtre, on imagine une Égypte hyper riche, mais ce n'est plus la grande Égypte pharaonique. C'était une Égypte pauvre, même si Cléopâtre s'est permis quelques excès. Pendant le règne de Cléopâtre, il y a eu 3 années de disette où il y a eu des émeutes de la faim du peuple et on n'était plus du tout à l'époque de Ramsès II, etc. Voilà donc. Ensuite, quand on passe au siècle suivant, alors bon, il y a quelques films, dont certains de qualité, sur le début des empereurs, sur Auguste, sur Tibère, sur Caligula, sur Claude, mais Néron a beaucoup retenu le cinéma, bien entendu, parce que c'est un personnage savoureux, un personnage imbu de lui-même, un personnage qui persécute les chrétiens, qui fait les premières grandes persécutions à la suite de l'incendie de Rome, et notamment dans le cinéma états-unien, on sait que les États-Unis sont très imbus de culture chrétienne et ces premières persécutions, c'est très parlant. Là, je n'ai pas choisi d'extrait, on n'a pas le temps de voir des extraits surtout. Mais peu après, alors il y a un autre événement qui va aussi très profondément marquer l'imaginaire collectif, c'est l'éruption du Vésuve de 79 après Jésus-Christ. C'est peu après la mort de Néron, 15 ans après la mort de Néron. Et alors on a produit énormément de films de différents types à ce propos. Remarquons du reste que depuis le 19e siècle, beaucoup de romanciers ont fait des romans sur l'Antiquité, mais le premier grand roman marquant sur l'Antiquité, qui date de 1842, c'est « Les derniers jours de Pompéi », d'Edward Bulwer Lytton, alors qu'il a été interprété bien des fois au cinéma. Depuis, il y a eu un petit peu de tout, des films, des téléfilms, des documentaires, etc. Et je vais vous montrer, ce sera le seul de ce genre que je vais vous montrer, un petit extrait d'un docu-fiction. Le docu-fiction, donc un documentaire fiction, en fait, il se base sur la réalité que l'on connaît essentiellement par les archéologues, mais il met en scène comme ça a pu se passer, mais en ne se permettant pas d'inventer une romance, etc. Il y a quelques personnages que l'on voit, mais ces personnages, c'est des personnages dont on connaît l'existence. Et l'épisode que vous allez voir, c'est un épisode qui se passe dans la maison d'un riche romain. Cette maison existe, les archéologues l'ont fouillée, on peut la voir depuis la rue de l'Abondance quand on visite Pompéi. On connaît son nom, il avait fait écrire des grandes inscriptions électorales sur la façade de sa maison. On a retrouvé et moulé les corps de la famille, les corps, les vides des corps, c'est une technique, je n'ai pas le temps de l'expliquer, et puis les os qu'il y a dedans. On a retrouvé notamment le corps d'une jeune femme qui a un fœtus à l'intérieur de son corps, etc. La scène se passe le matin de l'éruption à Pompéi. Matin de l'éruption qui traditionnellement aurait eu lieu le 24 août, probablement que c'est une date fausse d'après les découvertes archéologiques. Il n'y a qu'un seul texte romain qui donne cette date du 24 août, mais le 79 mai.
Thank you. soit à l'état actuel ou destiné de sa maison. Sur le mur extérieur, une inscription nous révèle qu'il a des ambitions politiques.
Et alors, vous allez voir, ceux d'entre vous qui ont fait du latin, c'est une inscription que l'on a retrouvée. Alors, bon, ils ont renforcé la couleur. Suspirium puellarum celadus traex. Donc, le tras celadus, tras c'est un des types de gladiateurs, fait soupirer d'amour. C'est le soupir des jeunes filles dans l'inscription. Et là, dans le texte. D'une jeune fille. Non, mais c'est pas. Voilà pour l'ambiance dans Pompéi tel qu'on a pu la reconstituer, mais il n'y a pas un roman, il n'y a pas un suspense, il n'y a pas des grandes histoires d'amour, il n'y a pas un héros principal, etc. Hein? Donc là, on est dans le registre du docufiction. Ensuite, il y a une série de films sur la suite sur la dynastie du 2e siècle après Jésus-Christ, pas beaucoup parce que c'est l'époque de la Pax Romana, la grande paix romaine avec des très bons empereurs. Les bons empereurs et que tout va bien, ça ne fait pas tellement des scénarios de films. Si ce n'est le dernier, qui est un follow, qui s'appelle le Commode, qui régnera de 108 à 102 après Jésus-Christ et qui inspirera de grands films, hein, qui a tous les plafonds de budget qui était la chute de l'Empire romain en 1965 et qui a été la chute du peplum pour plusieurs dizaines d'années et qui a eu un remake qui a fait repartir le peplum 35 ans après, c'est Gladiator. Mais Gladiator est nettement moins bon, mais il a eu plus de succès que la chute de l'Empire romain. Ensuite, au 3e siècle, ben, vous avez par exemple la période des guerres civiles où en 60 ans il y a 40 empereurs, etc. Pas grand chose marquant. On arrive ensuite à Constantin le Grand, il y a quelques films sur Constantin le Grand, mais il n'y a plus grand chose de marquant si ce n'est un film qui m'a marqué mais qui a eu très très peu de succès au cinéma. Et finalement, en Suisse, il a fallu qu'un cinéma indépendant de Lausanne le programme et qui a battu ses records d'audience parce qu'aucun distributeur ne voulait le distribuer en Suisse romande. C'est en fait une histoire qui se base sur quelque chose que l'on connaît relativement bien. Il y a eu une jeune femme à Alexandrie qui s'appelait Hypatie, qui était la fille d'un savant et qui elle-même est devenue une savante, qui est devenue, si vous voulez, on dirait maintenant une professeure d'université, et qui s'est trouvée à Alexandrie dans une période où il y avait de l'intégrisme violent. Alors les djihadistes de l'époque, c'était une secte chrétienne qui faisait des assassinats, des pogroms de juifs, etc. Et puis les gens acceptaient assez mal qu'il y ait une femme qui soit une scientifique. On connaît certaines de ces théories, on a une partie de sa correspondance, on a notamment un de ses élèves qui est devenu évêque de Cyrène en Libye, et qui nous a parlé abondamment d'elle, et c'est un personnage vraiment fascinant que cette Hypatie. Et alors voilà une de ses expériences. Là, il se trouve avec le jeune préfet d'Alexandrie, mais qui avait été un de ses élèves à l'époque. Et elle est une disciple, notamment d'Aristarque, qui était le premier à avoir affirmé la rotondité de la Terre, alors que à l'époque... Une expérience. Alors ce qu'elle veut faire comme expérience, parce que le soin est tellement mauvais, elle demande à son serviteur de lâcher un sac verticalement pendant que le bateau avance, et elle dit le sac va tomber au pied, va tomber à l'avant ou à l'arrière du bateau, puisque le bateau bouge. Elle suppose, mais c'est de la science expérimentale, elle suppose que le sac va tomber là, à l'arrière du bateau. Alors, voilà l'expérience. Il lâche le sac. Donc le vrai esprit scientifique à une époque où la science était une science expérimentale, c'est de faire des hypothèses, d'expérimenter et de se réjouir même si on s'est trompé, parce que ça veut dire alors qu'il y a une autre hypothèse et qu'il y a donc il faut rechercher ailleurs. Alors bon, maintenant on comprend bien, le bateau avançait, mais le sac aussi il avançait. S'il avait été lâché d'un ballon captif au-dessus, eh bien en effet, il y aurait eu une aberration tangentielle, mais ce n'est pas le cas ici. Alors, il semble que mon ordinateur fasse le méchant en ce moment. Ça ne m'empêchera pas de continuer pour dire, alors qu'il y a une multitude de petits films tout à fait médiocres sur les grandes invasions. Voilà. Alors arrivons maintenant au Nouveau Testament, notre dernière partie qui sera plus courte que celle sur Rome, le Nouveau Testament et le paléochristianisme. Alors sur Jésus, il y a eu des multitudes de films. C'est peut-être le sujet historique le plus souvent traité dans l'histoire du cinéma. Il n'y a pas une année sans qu'il ne sorte pas plusieurs films sur Jésus. Alors j'espère qu'il ne va pas faire trop le méchant, sinon alors les deux derniers extraits, je risque de ne pas pouvoir vous les passer, on verra. Donc, beaucoup de films sur Jésus, du reste dès le début du cinéma muet, parce que c'était aussi l'idéal pour le cinéma muet de montrer des scènes que pratiquement tout le public connaissait. À l'époque, le public était beaucoup plus imprégné de culture chrétienne qu'à notre époque. Il y a des scènes sur la nativité, bien sûr, beaucoup de films sur les rois mages, la nativité, etc. Des films sur les miracles de Jésus, beaucoup de films sur la passion et aussi ce qui fait un peu la transition entre le christianisme et le les films paléo-chrétiens, c'est le fait qu'on a une série de films, une thématique assez curieuse. J'en ai vu un tout nouveau cette année qui vient de sortir cette semaine. C'est un officier romain, chaque fois c'est interprété différemment, qui est mandaté pour enquêter sur la mort de Jésus. C'est pas normal que le corps ait disparu. Il doit avoir été volé, etc. Puis alors, on imagine différents scénarios. C'est la fameuse tunique, le film de la tunique, c'est l'enquête sacrée, c'est les Vosges pour Pilate, c'est la résurrection de Jésus, etc. Je voulais vous montrer un extrait, mais je ne sais pas si il ne faudra pas finalement que j'éteigne mon ordinateur et que je le rallume, mais ce sera trop long. Je n'avais plus que deux petits extraits. Donc, si mon ordinateur fait le méchant, c'est la première fois lors d'une conférence qu'il fait le méchant, mais heureusement tout à la fin. Je voulais vous montrer un extrait du film La Passion du Christ de Mel Gibson, en conseillant à tous ceux qui sont sensibles de fermer les yeux et de boucher les oreilles. C'est le moment de la crucifixion et Mel Gibson voulait le montrer de la manière la plus réaliste possible, que c'était vraiment une souffrance, pas ça veut dire la souffrance du Christ, que c'était une souffrance abominable. Et que quand le pape, qui était pape à l'époque, je ne sais plus qui c'était Jean-Paul II, il a vu ce film en avant-première et il se serait exclamé « ça s'est passé réellement comme ça ». Mais vraiment, alors, il n'épargne rien sur la douleur, sur la souffrance de Jésus. Et puis, alors, il y a ensuite une série de films sur les apôtres, sur les témoins, etc. Donc, c'est tiré notamment des actes des apôtres, mais c'est aussi tiré des évangiles apocryphes, etc. Enfin, beaucoup, beaucoup de sources antiques. Et puis, finalement, il y a eu une série de... Je vais voir si en fermant et en rouvrant, ça a un effet. Il y a une série de très grands romans, très célèbres, sur les débuts du christianisme. Alors, bien sûr, c'est de la fiction, mais si certains d'entre vous n'ont pas entendu parler de Fabiola, qui avait eu un grand succès en son temps, je pense que la grande majorité d'entre vous, vous avez entendu parler de romans tels que Bénure ou Covadis. J'avais espéré, puisque Covadis avait été écrit par un écrivain, un écrivain polonais qui restait mort à Vevey, donc trop tôt. J'avais espéré vous montrer un extrait d'un film absolument polonais, absolument délicieux, de Jerzy Kawalerowicz, mais visiblement mon ordinateur estime que je parle trop longtemps et que je vous retiens trop. Donc, ma foi, ces deux derniers extraits, celui de la Passion du Christ qui aurait été très violent et l'autre qui aurait été au contraire très kitsch, très Saint-Sulpicien, eh bien, nous en passerons. Je suis désolé pour ça. Voilà. Mais enfin, j'étais pratiquement vous. Le Vietnam a eu une grande période dans les années 1960. Maintenant, il a eu une renaissance depuis le début du XXIe siècle, mais plus avec un succès aussi considérable. Il se réfugie plus maintenant dans des séries télévisées, dans des télépéplums. Il y a des très très bons télépéplums, souvent de 3 heures, mais qui ne passent qu'à la télévision. C'est un art assez différent du péplum de cinéma. Voilà. Alors, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je crois que ça a duré depuis que j'ai commencé à parler 1h10. J'avais prévu 1h15, mais il y a deux extraits que je n'ai pas pu vont passer, donc je suis resté dans la durée que j'ai prévue. J'espère ne pas vous avoir retenu trop longtemps. Les gens pourront aussi me poser des questions, bien sûr, à la salle des pas perdus. Je serai à disposition pour leurs questions.
Moi, j'ai une question.
Oui.
Est-ce qu'il y a des peuples étrusques ? Des peuples étrusques ?
Oui, non, je comprends bien.
Non, parce que
je... Pas de, des peuples purement étrusques. Il y a, du reste de la littérature, remarquez que, à ma connaissance, qu'il n'y a qu'un seul roman marquant sur les Étrusques, c'est l'Étrusque de Mika Waltari, qui est un Finlandais. Vous avez des peplums qui montrent un petit peu les Étrusques, mais en relation avec les Romains, quand il y a des guerres entre les Romains et les Étrusques, et notamment les guerres contre Porsena en 508 avant Jésus-Christ. Donc les épisodes de Horatius Coclès, Mucius Scaevola, Clélie, mais c'est les seules véritables apparitions des Étrusques dans le cinéma. Non. Alors, il faut dire que sur les Étrusques, vous savez que l'Étrusque, donc la langue, on la lit, mais on connaît très très peu de mots. On a des centaines, c'est pas des milliers d'inscriptions étrusques, mais il y en a une seule qui fait plusieurs centaines de mots et qui n'a que des formules répétitives. Une autre sur une bandelette d'une momie. Une autre qui est sur une tuile où il y a 200 ou 300 mots, et sur ça, toutes les autres inscriptions, c'est des inscriptions qui ont maximum 20 mots, et qui ont presque toujours des formules stéréotypées, tel est tel, fils de tel est tel, roi de ceci, le roi c'est le Lucumon, le Frusque, etc. Donc on ne connaît pas la langue étrusque, on n'a pas de littérature étrusque. Et on a donc notre connaissance des Étrusques, ça n'est que dans la relation que les Étrusques ont avec les Romains. Bon, il y a un Étrusque qui est resté très connu et qui est beaucoup plus tardif, qui a été le protecteur des arts sous le début du règne d'Auguste, c'est Mécène. Même son nom a passé de la langue commune, un mécène et qui était d'une lignée de rois étrusques. Voilà. Non, mais alors. Non. Oui.
En fait, j'aimerais savoir si on peut déterminer quelle est la motivation pour un réalisateur de faire un film peplum. Est-ce que c'est que du divertissement, un intérêt pour l'histoire, ou est-ce qu'il y a des films où, par exemple, il y aurait un message, je ne sais pas, politique derrière?
Alors, oui, il y a tellement de milliers de péplums que, bien sûr qu'il peut y avoir des motivations très différentes. Il y a, pour une partie des péplums, ceux que le grand public connaît, des motivations commerciales. Et il faut répondre à l'attente du public. Je vous cite une petite anecdote, alors c'est sur un péplum égyptien, mais pour vous montrer comment... On se plie aux attentes du public parce que c'est lui qui apporte l'argent. Ça se passe en 1955. Un grand péplum égyptien tourné en Égypte. Ça s'appelle La Terre des Pharaons. Et puis, le réalisateur et son scénariste ont des conseillers historiques, des professeurs d'université qui connaissent bien la civilisation égyptienne. L'épisode se passe, je ne sais plus, au 3e ou 4e millénaire avant Jésus-Christ. Et ça commence par le retour d'une armée égyptienne victorieuse. Or, dans cette immense armée qui arrive, il y a de la cavalerie et il y a des chameaux, des dromadaires. Et il y a des conseillers historiques qui font remarquer, mais à l'époque, les chevaux n'avaient pas du tout été domestiqués. Il faut y renoncer. Alors le réalisateur envoie un télégramme au producteur, donc celui qui finance, qui est aux États-Unis, en disant les chevaux n'existaient pas à cette époque, je ne peux pas mettre des chevaux. Et puis l'autre envoie un mot grognant. Puis ensuite, il y a un conseiller historique qui dit « Oui, mais les chameaux et les dromadaires non plus. » Alors, même chose, il télégraphie au producteur américain. Et le producteur américain tape du poing par télégramme en disant « Bon, allez, d'accord pour les chevaux, mais je veux des dromadaires. Mon public, il attend des dromadaires, ça se passe en Égypte, il y a des dromadaires, un point c'est tout, sinon le film c'est un flop. » Donc il faut s'aligner sur les attentes du public. Mais il y a à part ça beaucoup de péplums qui peuvent avoir d'autres raisons. Il y a des péplums, par exemple les péplums poétiques. Récemment, il y a eu un péplum très poétique, presque sans histoire, qui s'appelle Nostos, c'est le mot grec pour dire le retour, et un personnage qui rentre dans sa patrie sur la mer en ayant des visions, en étant traumatisé par une guerre. C'est peut-être Ulysse, c'est peut-être pas Ulysse. Ça, c'est du poétique. Il y en a beaucoup qui ont des volontés de transculturer l'actualité. Hein. Je vous montrais pour l'extrait du film 300. Dans l'extrait du film 300, vous avez les méchants djihadistes avec leur tenue, excusez-moi, mais de sale arabe. Je n'ai rien contre, du reste. Bon, je n'entre pas des choses personnelles, mais je n'ai strictement rien contre. Là, il y avait le stéréotype. Ce n'était pas beaucoup après l'attentat des tours jumelles à New York, au moment où on a tourné ce film. Et c'était vraiment les bons démocrates occidentaux contre les sales musulmans qui n'étaient pas encore musulmans, mais qui avaient déjà... Bon. Mais vous avez, par exemple, un film sur Salomon et la reine de Saba qui se termine par une guerre entre Israël et les Égyptiens et qui les Israélites réussissent en étant beaucoup moins nombreux à détruire toute l'armée égyptienne, et c'est très peu à la guerre, après la guerre du Yom Kippour, etc. Vous avez un film qui a été primé à Cannes, un film polonais qui s'appelle Pharaon, qui se base sur un roman beaucoup plus ancien, mais ça a été filmé sous le régime communiste. Et alors ce pharaon, il essaye de démonter le clergé d'Amon, et puis il essaye aussi de chasser les financiers phéniciens qui exploitent l'Égypte. Donc là, il s'agissait de passer un message au nom du régime communiste que le capitalisme est mauvais et que la religion est mauvaise, etc. Donc vous avez souvent des messages sous-jacents. Mais il y a encore beaucoup d'autres raisons de faire des péplums.
Vous avez vaguement évoqué le problème en parlant des chameaux et en parlant des chevaux. C'est à propos justement des anachronismes. Oui. Quels sont les anachronismes, on pourrait dire quelques exemples fameux d'anachronismes dans les films antiques, parce que vous avez aussi une spécialité dans le domaine.
Oui. Bon, alors, écoutez, vous avez, je dirais, en gros, deux types d'anachronismes. Il y a l'anachronisme qui est l'irruption involontaire et pas remarquée d'éléments contemporains dans des péplums. Alors, c'est connu par exemple que dans un Ben Hur, on voit un joueur de trompette qui a une Rolex au poignet. Il y a un avion qui passe dans le ciel, il y a des traces de pneus dans le sable, etc. De Gladiator, vous avez une bonbonne à l'arrière d'un char pour faire, etc. Puis vous avez les anachronismes historiques où le réalisateur ne se rend pas nécessairement compte. Peut-être qu'il ne veut pas se rendre compte ou qu'il n'a pas des conseillers historiques capables de lui faire remarquer. Dans les films sur la guerre des Gaules ou sur l'espace, sur l'époque de Jules César, on montre pratiquement toujours les légionnaires romains avec des boucliers, les scuta, qui sont rectangulaires, bon, en forme de tuiles, comme ça. Mais ça n'existait pas à l'époque. Ils étaient ovales. C'est 150 ans après qu'on a ces boucliers qui sont représentés sur la colonne Trajan. C'est une guerre contre les Daces, enfin deux guerres, une de 101 et 102 après Jésus-Christ et puis l'autre de 105-106 après Jésus-Christ. Et c'est un armement donc qui existait 150 ans après. C'est comme si vous montrez une guerre de Napoléon avec les missiles. Bon, peut-être qu'il y a moins de différence entre les deux types de boucliers. Mais donc, vous voyez, c'est deux types d'anachronismes totalement différents. Il y aurait beaucoup à dire sur les anachronismes, sans compter les films qui veulent à tout prix jouer sur les anachronismes. Par exemple, un film où on voit, un film de 2000, les rois mages par un bug spatio-temporel débarquer à Paris de notre époque et puis être tout surpris, ou inversement, vous avez deux guides touristiques qui font visiter l'île de Capri, un peu fatigués, ils s'accoudent à une barrière au haut d'une falaise, la barrière lâche, ils tombent dans le vide et ils se retrouvent à l'époque de Trajan. Voilà, des exemples. Alors ça, on joue sur le bug spatio-temporel, c'est encore un troisième type d'anachronisme. Bon, il y aurait beaucoup d'exemples chacun.
Merci.
Je vous en prie.